Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1226 en ce samedi 24 février. J'espère que vous allez bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago avec Marc Loison dans ce 1226e numéro. En première heure, deux nouveaux extraits de l'album du mois Just Give Me Some More par Bonifiz. Et puisque vous aimez lui en demander plus, eh bien un clip est en préparation. Également Jacques Picard qui vous présente en avant-première la nouvelle collaboration de son assaut backstage avec la commune nouvelle de Tuému et l'avenue au studio de Bretteville l'Orgueilleuse de Labedoun et de Sean McDonald samedi 16 mars. Donc ne manquez pas cette belle date. Dans la rubrique Les Incontournables, Francis Fima nous permet un retour en 1958, s'il vous plaît, avec l'immense Otis Rush et une de ses célèbres sessions Cobra. Et puis dans le 43e épisode de Beatles Song Story, Jackie Emery vous propose un retour en 1968 avec le titre Sexy Sadie, repris bien plus tard par Morgan James et grâce auquel nous reviendrons aussi sur un titre de Smokey Robinson. Et puis en deuxième heure, nous parlerons avec Fred Chapelier de son tout nouvel album Live in Paris qui sortira le 15 mars chez Dixie Frog et dont vous pourrez entendre trois titres en exclusivité. On parlera de l'album et de bien d'autres choses évidemment. On démarre avec le disque du mois, c'est toujours Bonifiz, Just Give Me Some More chez Dixie Frog avec le titre What's Wrong With You Bonifiz.
To make up your mind, is it him or me? What's it gonna be? Or am I just wasting my time? I catch you in a messed up situation, and the situation 'bout to catch up with you. You said you love him, but you say you love me. What you gonna do, girl? What is wrong with you? What you gonna do? What is wrong with you? What you gonna do? I know you'll never have it just your way. Your love is deadly and it's got to be a shame. There's nothing better than we're going. You're doing me wrong. You want me to play your game. You tell me things are changing, but they still stay the same. I know I'm in love with you. So tell me, won't you tell me? What is wrong with you? What you gonna do?
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? What's wrong with you ? Nous dit Bonnie Fields dans Just Give Me Some More. Il y aura un nouvel extrait de ce disque en fin de première heure. Et en attendant, voici l'interview de Jacques Picard qui nous parle du premier blues au studio qui se déroulera le 16 mars prochain à Tu es Mu, à côté de Caen. Je reçois Jacques Picard de l'asso Backstage. Bonjour Jacques, comment vas-tu ?
Bonjour Marc, ça va très bien.
Très heureux de t'accueillir à nouveau dans Sweet Home Chicago. Et puis, c'est pas forcément pour parler toujours de la nuit du blues, parce que Backstage organise ça depuis un certain nombre d'années, mais il y a également des partenariats. Ça fait un bon moment également qu'on parle du Evrecy Blues Club, qui a bien fonctionné la dernière fois, je crois.
Ah oui, encore. De toute façon, toutes les éditions, c'est-à-dire 10, on était complet. Il y a eu un tout petit trou au moment du Covid, là, quand on a repris après le Covid, où on avait perdu des places parce que les gens étaient malade. Voilà. Mais sinon, non, c'est une super aventure. Voilà, pour Backstage, puisque c'est Backstage qui est organisateur à Evrecy.
Hein. Voilà, et puis le Evrecy Blues Club qui va continuer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais également la nuit du blues au Zénith. Un petit bilan rapide de cette édition 2023.
Oh. Écoute, les retours ont été excellents pour nous au niveau programmation et tout. Ça n'a pas été une soirée forcément de tout repos, parce que le fait de faire à 18h30 quand tu as trois formations comme on avait, je peux te dire que l'après-midi n'a pas été des plus cool. Quoi, voilà. Il y a eu des petites choses à aplanir, même au niveau de groupes que je ne citerai pas. Donc voilà, tu vois, non, ça a été quelque chose de dur, voilà. L'organisation est déjà compliquée, mais en plus l'après-midi n'a pas été de tout repos. On a attaqué à midi, on a fini à, je sais plus, minuit, 1h du matin. Sacrée journée.
Ouais.
Mais voilà, mais les retours sont très bons. J'ai encore vu Lucky Jean-Luc là, il n'y a pas longtemps, samedi dernier, là, avec qui on a parlé. Et voilà. Bon, et on a déjà des vidéos, des belles vidéos qui sont faites par notre équipe de vidéastes, ouais, qui sont déjà arrivées. Et c'est très très chouette, quoi.
Avec une belle programmation, et bien on espère que la prochaine fois il en sera au moins autant de même. Et là, il y a un nouveau partenaire qui se profile, et c'est ni à Evrecy ni à Caen, mais dans la région de Caen, Bretteville Orgueilleuse, Tu es Mu, c'est comme ça qu'on dit maintenant.
Alors voilà, la commune de Tu es Mu, hein, c'est une commune nouvelle qui regroupe 6 communes, voilà, autour de Bretteville Orgueilleuse, quoi, voilà. Et donc, il y a à Bretteville Orgueilleuse, il y a une très belle salle de spectacle qui a été construite il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Le Studio. Et voilà, les hasards de la vie ont fait que j'ai été amené à rencontrer l'adjointe à la culture de la commune de Tu es Mu. Et on a discuté pendant plusieurs mois pour voir s'il y avait la possibilité de mettre en place un partenariat. Alors cette fois, il s'agit bien d'un partenariat, l'organisateur et le service culturel de Tu es Mu.
D'accord, ce qui est
voilà,
différent d'Evrecy.
Contrairement à Evrecy, où nous sommes organisateurs.
Et où là, Backstage arrive dans une salle vide et vous faites tout de A à Z.
Exactement, voilà. Exactement Marc. Voilà, donc là, on programme, on aide à la promo, on fait la promo, hein, puisqu'on a notre public, on a notre public blues. Hein, bien sûr, on apporte tout ce qu'on sait faire, mais c'est quand même évidemment plus confortable. Et il y a une superbe salle qui est pour moi l'équivalent en taille du Big Band Café.
Ouais.
Sauf que là, on peut être en configuration assise, avec 230 places assises, en gradin, confortable.
Très bien, donc avec une belle appellation, tout simplement soirée blues au studio, hein, quoi de plus naturel, puisque la salle s'appelle Le Studio, tu l'as dit, avec une programmation inédite dans la région. Hein.
Oui, c'est un peu surprenant, hein, parce que voilà, nous on propose la Bedoune que je connais depuis 2 ans hein, maximum, il n'y a pas très très longtemps en fait. Hein. Alors je ne sais pas s'ils ont joué dans la région, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient venus dans la région déjà, parce qu'ils sont du sud de la France, donc ils tournent beaucoup du sud de la France, un couple hein, donc de Français qui sont de la région de Montauban, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Voilà, et qui jouent ensemble, eux, depuis très longtemps évidemment, et la Bedoune, ça doit dater de 2016 ou un peu avant 2016, puisque leur premier album date de 2016, le deuxième 2020, et puis le dernier l'an dernier.
Et voilà donc Greg et Cécile, que les auditeurs de Sweet Home Chicago connaissent bien, puisque c'est vous qui l'avez élu disque de l'année 2023, le titre La Bedoune est mon nom, puis on espère bien sûr une suite, parce que ce groupe n'a pas fini de nous faire vibrer. Tu les as mis en première partie, La Bedoune, donc ils vont faire pas mal de routes, j'espère qu'ils ont trouvé une date de route finalement, parce que dis-donc,
je sais pas, mais il n'y a même pas eu de discussion, je veux dire, ça n'a pas posé problème, tu vois, et ça c'est chouette quand même, hein. Voilà, donc quand je les ai contactés, ils étaient branchés directement. Alors quand tu dis première partie, si tu veux, première partie, ça me gêne un peu maintenant parce que nous on fait jouer les groupes 1 heure.
Ouais, double plateau, on va dire.
Voilà, tu vois, je préfère double concert ou double plateau, mais tu vois, justement, je reviens à ma soirée de samedi dernier où j'étais au Havre, où Muddy Gurdie jouait, justement, là, en première partie d'un Américain, et ils avaient 3 petits quarts d'heure, tu vois.
Ah oui, c'est court.
Et moi, je trouve que c'est court, et je crois que nous, ça fait déjà très très longtemps que le premier concert, je crois crois que c'est toujours une heure, mais ça date dès les débuts de la nuit du blues, c'était ça. On n'a jamais fait jouer un groupe une demi-heure. Moi,
surtout quand tu viens de loin, enfin c'est le cas aussi de M. Ordi, ils viennent d'Auvergne. Je crois d'ailleurs que la Bedoune, c'était des Auvergnats au départ qui sont partis dans le sud-ouest.
Possible, hein,
ils nous en avaient parlé. Donc en tout cas, très, très content, je parle pour moi pour l'instant, que tu puisses accueillir la Bedoune pour cette soirée blues au studio qui se déroulera samedi 16 mars. Alors là encore, c'est un horaire, c'est un horaire 18h30 pour un samedi. Hein, c'est...
Voilà, 18h30 un samedi, parce qu'il y a une petite restauration de prévu par Tu es mu. Hein, ouais. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir une soirée sympa, de démarrer. Voilà, il y aura un bar, hein, et puis petite restauration. Voilà, et comme ça, ils peuvent jouer une heure. Et puis.
Voilà, donc en deux parties.
Voilà, avec en deux parties, de véritables concerts, avec un entracte assez important, effectivement, d'une demi-heure environ, pour permettre une petite restauration. Ouais.
Si mon nom ne te revient pas, ne le prononce pas, ne m'appelle pas, mais ne dis pas que ce nom, ce n'est pas le bon. Y'a ceux qui disent qu'est-ce que c'est que ça, ça n'existe pas. Y'a ceux qui se marrent et qui pensent que c'est un peu ringard. Y'a ceux qui cherchent à comprendre, mais y'a rien à comprendre, c'est juste à laisser ou à prendre. Mon nom, qui ne te revient pas, mais qui est pas plus con ma foi, que ton nom à toi. Y'a ceux qui jugent qu'il n'y a pas pire, qu'on peut juste en rire. Y'a ceux qui jaugent, c'est de la bouse, c'est pas branché blues. Ils l'ont au bord des lèvres, comme un bouton de fièvre. Ça les dépasse, mais moi j'en suis fière de mon nom qui ne te revient pas, mais qui est pas plus con ma foi que ton nom à toi. Le genre Buffalo Bill, il sonne pas très western, chevaux Colt et John Wayne. C'est juste un nom comme ça qui vient de chez moi, et j'habite pas à l'Oklahoma. Si mon nom, non, 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 ne te revient pas, ne le prononce pas, ne m'appelle pas, mais ne dis pas. Ce n'est pas le bon nom. Que ce nom, oh, 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 ce n'est pas le bon.
Et ensuite, notre ami Fabrice Bessois nous propose une halte dans la tournée d'un tout jeune artiste dont il nous a parlé dans la dernière interview, c'était à l'automne dernier, monsieur Sean MacDonald. Je te laisse nous en parler.
Oui, alors c'est assez extraordinaire. Hein. Quand Fabrice m'a envoyé la possibilité de le faire jouer chez nous, j'ai craqué tout de suite. Hein. Et c'est souvent comme ça. Il faut remercier les gens comme Fabrice, comme Alain Michel, comme Pascal Delmas, dont tu parles régulièrement, hein, qui sont des tourneurs et qui nous font découvrir des gens qu'on ne trouverait pas, nous, tout seuls. Et là, effectivement, ce gars-là, il est né en 2001, Hein, voilà, 2001. Donc il a 22, 23 ans. Il a toujours fait de la musique, hein, mais il a aussi, il est diplômé de l'université des États-Unis. Hein. Alors dans le domaine de la musique, mais voilà, c'est un universitaire. Et il a toujours joué de la musique, je disais. Et son premier concert, il a fait à 11 ans. Il a joué dans un bar, il y avait une jam, il y est allé. Il a joué pendant 2 heures et il s'était fait 100 dollars. Il ne comprenait pas. À 11 ans, il avait laissé sa caisse de guitare posée devant lui, mais voilà, comme ça, sans rien espérer du tout. Et il s'est retrouvé avec 100 dollars à 11 ans.
C'est ce que je dis souvent. Aux États-Unis, on ne peut pas tellement rentrer dans la plupart des clubs avant l'âge de 21 ans, oui. Sauf si on est musicien.
Voilà, exactement.
Alors, tu écris sur ta petite doc, batterie à 2 ans, piano à 3, guitare à 7. Il a forcément été aidé par papa ou maman ou les grands frères.
Et ça, oui, voilà, oui. Dans la famille, ils écoutaient beaucoup de musique. Alors, il n'y a pas de musicien forcément, hein, mais il a toujours été, effectivement, quand même dans le monde de la musique, hein, c'est clair. Et puis, il est doué. Enfin, il est assez sidérant. Il a une culture musicale absolument extraordinaire parce qu'il a étudié la musique, mais voilà, il connaît tous les classiques. Il connaît tous les anciens musiciens, il connaît les styles, il peut les jouer. Enfin, moi il me sidère totalement. Donc, je l'attends, celui-ci, je l'attends vraiment avec une impatience pas possible.
Avec des influences, tu cites encore sur le fly de gens comme Freddie King, T-Bone Walker, Chuck Berry, et puis j'imagine que ben voilà, tu l'as dit, il connaît tout un tas d'autres artistes. Et puis tu cites aussi Jean-Tavius Willis qui parle de Sean McDonald.
Oui.
Jean-Tavius Willis que tu connais aussi.
Bien sûr.
Que
j'ai vu à Coutances, oui. Alors c'est pareil, on est en contact avec son tourneur aussi. Donc j'espère un jour.
Très bonne idée. Oui.
Voilà, j'espère un jour pouvoir faire quelque chose. Alors il y a absolument aux États-Unis actuellement une nouvelle génération extraordinaire là, de jeunes musiciens qui ont entre 20 et 30 ans, c'est absolument incroyable, la scène se renouvelle.
Si un jour tu peux nous avoir D.K. Errol par exemple,
oui,
ça pourrait
être
vraiment super.
Voilà, non, mais c'est carrément génial quoi, parce que alors ces gars-là, ils ont une culture musicale absolument incroyable, ils renient pas leurs anciens comme il y a eu pendant très longtemps, parce qu'il y a eu un rejet un peu du blues quand même par les Afro-Américains aux États-Unis pendant longtemps, hein. Il y a eu un petit retour début des années 90, et puis là ça s'était bien calmé depuis un moment. Et là voilà, il y a la nouvelle génération qui arrive, alors il faut surtout que tous les programmateurs en France, leur ouvre les portes.
Il ne faut
surtout pas hésiter.
Tu viens de citer quelques tourneurs.
Voilà,
et c'est vrai qu'ils travaillent.
Ben oui, mais c'est pas toujours facile pour eux, tu vois.
Ils travaillent en bonne intelligence et
exactement.
Bien souvent, ils ont, toi, tu l'es, des fidèles, des clients entre guillemets, des gens avec qui partager cette programmation. Mais il faut que ça s'ouvre parce que il y a du nouveau. Tu l'as dit.
Voilà.
Y a du 109 quoi.
Et puis d'une qualité absolument incroyable. Hein. Moi, je me rappelle quand on a fait Chris Berson la première fois. C'était ses débuts aussi de Chris Berson que personne ne connaissait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois qu'il faut pas avoir peur quand on a un public, il faut surtout pas avoir peur d'ouvrir. Moi je reste sidéré, si tu veux, dans le cas qu'on a chez nous localement avec Westbound, que je trouve qu'il y a un groupe qui a vraiment des qualités pas possibles, qui a une originalité pas possible et tout, et à qui on ferme les portes parce que pas assez blues, pas assez rock, pas assez.
Oui, il y a toujours pas assez ou trop de quelque chose.
Mais c'est de la folie.
Tu leur as fait faire le Blues Club il y a pas très longtemps et on les voit pas tellement finalement.
Mais non,
c'est
non,
vrai,
non,
hein.
Non. Alors que, je veux dire, n'importe quel festival de blues peut ouvrir ses portes à un groupe comme Westbound sans aucun problème. Je veux dire, si tu les mettais en tête d'affiche d'un festival de blues et puis qu'il n'y a pas de blues avant, là, effectivement, tu peux t'attendre à des retours, mais je veux dire, dans une programmation où tu as plusieurs groupes, moi je trouve que ça fait une respiration, quoi. Voilà, et il faut pas avoir peur de ça.
Et c'est-à-dire, Jacques, y a des programmateurs, des organisateurs de festivals qui n'auraient pas les oreilles aussi larges que ce que leur public, peut-être ?
Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. Je regarde évidemment toutes les programmations et tout, si tu veux. Et tu vois des festivals, voire des grands,
qui sont très ouverts.
Voilà, qui mettent blues. Et là, tu cherches dans la prog et tu dis, ah oui, tiens, il y en a un.
Il y en a un.
Il faut trouver un juste milieu. Mais il faudrait aussi que les autres festivals, moi j'avais demandé à Beauregard. Hein. Ce que je ne comprends pas également, si tu veux, c'est que notre musique n'arrive pas à franchir dans l'autre sens, les festivals, les grands festivals, je veux dire, que ce soit les Papillons de Nuit, que ce soit Beauregard, que ce soit tous les sites que tu veux, à part des exceptions comme il y avait eu Six Steve. Voilà, Six Steve à Beauregard, tu vois, mais j'en cite un.
Et peut-être qu'il y aurait encore un autre qui pourrait, lui, parce qu'il travaille sur d'autres réseaux, je pense au Suédois Bror Gunnar Jansson. Lui aussi, alors lui, il arrive à faire un petit peu les deux tableaux,
festivals
de blues et puis les autres scènes, mais c'est pas facile.
J'avais proposé des formations, moi, qui étaient suffisamment ouvertes musicalement, si tu veux, pour jouer dans n'importe quel festival. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Hein. Tu prends une chanteuse. tu prends des chanteuses ou tu prends, enfin, il y a des musiciens. Voilà. Bon, si on te fait que du Chicago blues pendant une heure archi basique, non, effectivement, mais c'est plus le cas maintenant. Regarde, tu prends un Mike Wheeler qui fait à la fois le show, qui est assez large musicalement. Enfin, t'as plein de musiciens comme ça qui en plus sont pas chers. Et qui ferait plaisir à beaucoup de monde.
Bien sûr. Alors voilà, tout ça, c'est une question de réseau, c'est une question de connaissance aussi, parce que quand on n'a pas les bons interlocuteurs, finalement, ben, on tourne un petit peu en rond. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot du blues, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres musiques qui sont un petit peu des niches musicales. Oui. Il faut quand même rappeler que le blues, c'est pas du tout la musique qui est la plus écoutée, même parmi les musiques dites underground. Hein. Il y a le jazz qui passe un petit peu au-dessus, il y a ce qu'on appelle les musiques du monde, ça veut pas dire grand-chose.
Le reggae, t'as le reggae aussi, oui, bien sûr. Oui, mais tu sais, le blues, moi, ce que je remarque depuis les quelques années qu'on tourne autour du blues, c'est que tu mets des gens qui ne connaissent pas. C'est exceptionnel que les gens n'aiment pas le concert auquel ils vont assister.
En général, ils sont séduits.
Tu vois, à Ivrecy, on a le cas. On a de plus en plus des gens qui viennent et qui sont pas du tout des amateurs de blues.
Parce que ce sont des amis qui leur disent, mais si, viens
exactement.
Voir. Et puis, le bouche à oreille fonctionne.
Et qui sont sidérés, parce qu'on les voit, ces gens-là, à Ivrecy, on a la chance. À Ivrecy, on est là, on est dans la salle à la fin des concerts et tout. Et ma femme est à l'entrée et à la sortie, accueille à l'entrée, mais est aussi présente à la sortie et discute avec les gens. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Comment on peut avoir des artistes de cette qualité? Là, dans la salle des fêtes d'Evrecy, parce que c'est vrai que globalement on présente quand même des artistes qui tiennent la route et qui apportent quelque chose, qui font un show, et voilà. Donc,
qui ne se contentent pas d'être musiciens, qui effectivement apportent ce exactement. Qu'on appelle un spectacle. Alors, total. Jacques, est-ce que tu as une idée de la proportion des gens, que ce soit sur le Evrecy Blues Club ou sur la Nuit du Blues, qui n'ont pas entendu parler des artistes avant, ou même qui n'ont même pas d'enregistrement de ces artistes-là?
Je peux te dire, c'est quasiment 100%. sérieusement, hein, c'est quasiment 100%. Quoi. Ouais. Et tu vois, et ça tient comme ça depuis plusieurs années parce que les gens sont contents. Mais en France, on est victime de ça, si tu veux. On est victime des catégories qui n'existent pas aux États-Unis, hein, blues, jazz, etc., etc. Tu vas dans les clubs, moi j'étais à Austin l'été 2022, tu vas dans les clubs, tu as tout style de musique qui se produit, quoi. Voilà, tu as vraiment un mélange bien plus présent, même à l'Anton's Club. Ouais. Tu peux voir du rock, tu peux voir du blues, tu peux voir du jazz, tu peux voir du rhythm blues, tu peux voir différents styles de musique, si tu veux. Pourtant, c'est l'Anton's Club, quoi.
Voilà. Et ben, c'est vrai que, Jacques, par rapport à l'actualité du blues, il y a de belles nouvelles. Tu l'as signalé, Sean McDonald, qui fait partie de cette nouvelle génération, né en 2001, Augusta, en Georgie, rappelons-le. Et puis, en première partie, la Bedoune, c'est pour la soirée du samedi 16 mars, à partir de 18h30, avec, tu l'as souligné, une petite restauration possible entre les deux concerts. Ça se passe au studio. Place des Canadiens à Bretteville l'Orgueilleuse sur la communauté de communes de Tuému. Et puis bah, les réservations 02 31 80 47 07. Assis non placé, on précise. Hein. 02 31 80 47 07. Avant d'écouter un extrait, non pas de la discographie de Sean McDonald, parce qu'il reste à faire. Avant d'écouter une vidéo, le son va pas forcément être au top, mais on peut comprendre que lui n'ayant pas encore enregistré d'album, et bien voilà, ça, on va quand même écouter ce qu'il fait en live. Donc avant cela, je voulais faire une petite parenthèse sur j'ai été interrogé l'autre jour par un des fidèles de la Nuit du Blues à Caen sur les réseaux, et qui me disait non, la première Nuit du Blues, c'était pas en 94 avec Jimmy Johnson, c'était en 93 avec, et puis il se souvient lui parce qu'il avait
oui je vois de quoi il veut parler, de Paul Person,
c'est ça, avec Bernard Allison, avec Patrick Verbeek, avec les Blues Brothers, et puis Borderline.
Oui,
je crois, j'espère pas m'être trompé.
Tu t'es pas trompé,
c'était pas Backstage
du tout,
c'était
pas Backstage.
Le Zénith, hein.
Voilà, c'était. Alors, je pense que c'était le Zénith, oui, ça resterait à creuser, mais nous, on a démarré en 1994. Avec Lucky Peterson, Jimmy Johnson et Tian Hong-Til Blues Band.
Exactement, et avec un super bœuf de Tian Hong-Til, je me rappelle encore.
Oui.
30 ans après, dis donc. Hein, 30 ans.
30 ans, tiens, mais oui, c'est avec 30 ans le premier Zénith. Ouais.
Merci Jacques, et à très bientôt.
Merci Marc, à bientôt.
On se parlera à nouveau pour le prochain Evrecy Blues Club qui se déroulera le 31 mai.
31 mai, tout à fait.
À bientôt. Merci Jacques. Merci à Jacques Picard pour cette interview. On a pu écouter La Bedoune et Mon Nom par La Bedoune. Également Sean McDonald dans un petit extrait live en Espagne. Et puis là, à l'instant, un extrait de concert live in Nashville 2023 où il partageait l'affiche avec un certain Kirk Fletcher. J'espère que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous diffuser l'album de Sean McDonald qui reste encore à faire. Je vous rappelle que c'est encore un jeune artiste. On y va pour les incontournables à présent.
Oh, yeah. What can a man do?
Mama got mad at Papa, 'cause it didn't bring no coffee.
Les incontournables avec un artiste, on va faire un grand flashback en arrière à l'époque de mes toutes premières émissions, nous sommes en 1983 et dans le studio à l'époque il y a un certain Thierry Anquetil qui m'apporte un disque d'Otis Rush qui s'appelle Right Place Wrong Time, un album de 1974 qui a été franchement très fraîchement enregistré à l'époque, et ce monsieur Otis Rush, je ne le savais pas encore, allait beaucoup compter dans ma carrière de radio. Voici monsieur Otis Rush en 1958, ça s'appelle It Takes Time. Merci à Francis Fima pour la diffusion de ce titre.
Pretty baby, tomorrow you could be crying. You live for the day, you leave your tomorrow's on its own. But got a little child, should try to make it a home. But oh, oh yeah, you know what it means to be alone. You take your life and pretty baby, tomorrow you could be crying. Thank you.
fades away. Oh, oh, yeah. You know what it means to be alone. Today you learn from pretty baby, but later you know what it means to be alone.
En 1958, on est à l'époque de Cobra Records. Il y a d'ailleurs The Cobra Sessions 1956-1958 qui vous remet sur vinyle et peut-être maintenant sur CD tout ce qui existe d'Otis Rush. Je me souviens également d'un vinyle avec Albert King, avec une face chacun. Voilà pour les incontournables avec Francis Fima. Voici maintenant Jackie Emery pour Beatles Sanctuary numéro 43. Beatles Sanctuary numéro 43 avec Jackie Emery. Comment vas-tu ?
Bonjour Marco, ça va ?
Eh ben écoute, she came in through the bathroom window la dernière fois, et là encore on change d'univers. Sexy Sadie, on revient quelques années en arrière avec un titre que tu affectionnes particulièrement.
Oui, alors quand je dis quelques années en arrière, non, c'était 69, on passe à 68.
Oui, et ben donc l'année précédente.
L'année précédente.
De toute façon, c'est pas compliqué. La discographie des Beatles, c'est 62-70. Il y a des exceptions, hein. Par exemple 2023, mais bon, ça, on en a parlé il y a pas très longtemps.
Et 1990.
94.
94.
Ah oui, j'ai trouvé le truc, c'est 94.
Pour Real Love et.
Exact.
Free as a bird.
C'est ça.
Très bien, monsieur. J'aime bien ton côté pointu.
Moi, j'aime bien les années. Moi, 68, c'est une année qui me plaît aussi particulièrement, pour plein de raisons.
D'accord.
Voilà. Et toi, Jackie ?
L'année que je préfère.
Oui. Pour les Beatles.
Pour les Beatles.
L'année de Revolver, peut-être.
Ouais, certainement, hein ? Ouais. Oh, c'est difficile. Hein.
66.
De toute façon, tu sais ce que je dis à propos de la question subtile que me proposent souvent les gens. C'est quoi ton préféré des albums des Beatles ? Alors ça encore, ça va. Hein.
Oui.
Ça peut être aussi quelle chanson tu préfères.
Hein. Ah oui, ben ça c'est beaucoup plus pointu.
Alors en fait, j'ai une réponse parce que très simple, c'est que mon album préféré et ma chanson préférée, c'est pas toujours la même.
Oui.
Ah, tu me poses la question aujourd'hui, je vais te dire Revolver, et puis dans 6 mois, ça sera peut-être Sgt Pepper's. Comme ça que ça fonctionne. Mm. Pour les chansons, c'est pareil. Voilà. Même si tu sais que j'ai une petite, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un truc pour Zig Winset Today. Tu te rappelles ?
On l'a fait celle-là.
Ouais.
Oui, on l'a fait.
Je t'ai dit que je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne joue pas la guitare.
C'est vrai.
Ouais.
Oui, c'est ce que tu nous as dit. Même juste les premiers accords.
Ouais. Et c'est pas la chanson la préférée des fans, ni celle des même peut-être préférée des Beatles. Ouais, McCartney l'aime bien.
Il est toujours
à son show. Hein, quand
Jackie, tu crois qu'il y a vraiment d'autres musiciens que toi qui disent moi je joue cette chanson-là tous les matins ? Ça existe, ça ? J'ai l'impression d'avoir affaire à l'extraterrestre des fois quand je trouve pas.
Ouais. Non, mais il y a un côté addictif là-dedans qui est un peu. Vrai que je consulte un peu.
Oui, tu vas consulter le docteur Robert.
Docteur Robert, il te donnera ce qu'il faut.
Et alors, donc, on est sur un titre qui s'appelle Sexy Sally. Ouais, c'est pas forcément le titre qu'on cite en premier quand on parle de la discographie des Beatles.
Ah oui, tout à fait, ouais. Et pourtant, je vais te dire, c'est une chanson qui mérite d'être connue. Donc, elle est sur l'album blanc de 1968. C'est une chanson de John, enregistrement du 19 et 24 juillet, 13 et 21 août dans les studios d'Abbey Road. Et écoute-moi bien, nombre de prises, 117.
Non.
Eh oui, monsieur.
C'est le record.
Oui, je crois. Oui,
ah oui, parce que là...
Sérieux. Mais 117, ça nous indique quelque chose, ça. Hein. Ça nous indique quand même le sérieux avec lequel les Beatles travaillaient. Et ils ne laissaient rien au hasard. Ils voulaient vraiment obtenir une perfection. Tu vois. Bon. Donc, production George Martin, comme d'habitude. Et sur l'ingénieur son, on a affaire à Gene Scott. Voilà. Alors, Sexy Sadie, ça semble être une chanson, c'est ce que nous dit un peu les paroles, un peu nébuleuses aussi quand même, sur une fille qui fait marcher les hommes pour ensuite les ridiculiser. Voilà.
Oui.
Bon, voilà. Une fille. Voilà. En réalité, elle a été écrite au sujet du Maharishi Mahesh Yogi.
Tu t'imagines la vitesse à laquelle les gens vont réagir à ça.
Ouais.
Ils ont tout de suite une image en tête, ça sera une femme en particulier.
Ouais, ouais.
Ah,
oui,
pour chacun de vous, messieurs.
Oui, tout à fait.
Ça ne sera pas forcément la même d'ailleurs.
Donc c'est le fameux Maharishi qui, comment dire, envers lequel John...
Maharishi Mahesh Yogi.
Envers lequel John avait perdu un peu toutes ses illusions. Sachant qu'il ne pouvait écrire une chanson dont le titre serait Maharishi, sans risquer un procès, John a choisi de l'appeler Sexy Sadie.
Ah, je crois que tu parlais de la version de Lionel Richie.
Non, c'est... C'est pas le mieux. Non, en 2024, t'es en forme.
Oui, bah écoute, il faut toujours. Hein.
T'as raison. Mais sur la maquette, on entend. Alors je crois. Non, je crois pas que c'est sur Anthologie. Mais moi, je l'ai entendu, ça. Donc l'enregistrement existe. On voyait une volée de bois vert à sa véritable cible. Hein.
Voilà. D'accord.
Les Beatles ont décidé de quitter Rishikesh pour deux raisons. Ça, c'est donc, je le rappelle, hein, ils sont partis aux Indes rencontrer le Maharishi. Alors, le Maharishi, c'est un peu sous l'impulsion de George Harrison, hein, qui est très intéressé par la méditation et puis la culture indienne, avec sérieux d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça va se traduire aussi dans sa musique, on le sait, hein, avec l'arrivée du sitar dans pas mal de morceaux des Beatles, dont la première apparition se fera sur l'album Revolver. Donc je dis qu'ils vont quitter les Indes. Alors, je mets de côté Ringo Starr, qui lui est déjà reparti de très depuis longtemps parce qu'il a compris qu'il ne trouverait pas ce qu'il cherche et que tout ça était un peu comment du cinéma. Donc la première, c'est qu'on leur avait dit aux Beatles que le Maharishi en voulait essentiellement leur argent, et l'autre était une rumeur qui disait qu'il avait fait des avances à une de ses disciples. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve d'ailleurs pour confirmer ces allégations, cela a suffi aux trois Beatles concernés pour être contrariés par ça. Donc ils se sont réunis avec le gourou pour lui faire part de leur projet de départ. Et lorsque, alors, ça j'aime beaucoup, lorsque le gourou a demandé de s'expliquer pourquoi vous partez, John a répondu « Eh bien, puisque ta conscience est cosmique, tu dois le savoir. »
Ça c'est bien vu.
J'aurais pas voulu avoir affaire à lui dans une discussion. Hein, parce que je crois qu'il y a...
Comme disait Jean-Claude Van Damme, hein, si tu téléphones à une voyante et qu'elle dit allô qui est à l'appareil, tu peux te dire c'est pas la peine, je vais raccrocher.
Ah là, tu vois quand même mes citations à moi quand je pense que j'ai cité Victor Hugo et que tu cites Van Damme.
Ah bah,
ça mesure l'écart. Hein,
chacun ses valeurs. De...
Il y a aussi le fait que quand même, pour être un peu plus sérieux sur cette histoire avec le gourou, c'est que les Beatles attendaient beaucoup du Maharishi, mais ses cours étaient plutôt destinés à des gens qui avaient déjà une solide formation et qui se destinaient à l'enseigner, tu vois. Et les Beatles n'avaient ni l'expérience ni la formation nécessaire pour être là, en fait. Alors, ça, c'est la première partie, si tu veux. C'est le côté sérieux de la chose. Et puis, dans ce qui était aux alentours des Beatles, il y avait toute une cour là, qui était arrivée là-bas aux Indes. Et donc, il y avait des jalousies qui étaient au sein des parasites là, qui étaient autour des Beatles. Et donc, certains ont dû monter des histoires de toutes pièces, soit pour se faire remarquer des Beatles, soit pour s'attirer les bonnes grâces. Voilà.
Mais avec tout ça, je fais la parenthèse quand même. On parle de She Came In Through the Bathroom Window avec ses fans qui pénétraient dans la maison de Paul. Et puis, ce que tu viens de nous dire, ça devait être complètement dingue d'être un Beatle dans les années 60. Je sais pas, est-ce que tu t'es déjà imaginé mis dans la peau de John Lennon ou Paul McCartney?
Oui. C'est quelque chose qui est très écrit.
Ils n'arrivent pas à être tout seuls.
Dans la littérature. Quoi. Mais chacun a trouvé sa façon de s'en sortir un peu. Ouais. Alors, Ringo Starr a toujours réussi à rester un peu à l'écart de tout ça. Puis, il était un peu moins visé par les fans, il faut le reconnaître. George, c'est un petit peu enfermé dans la méditation. Pour John, ça a été Yoko. Hein, et puis pour Linda, c'était Paul. Rappelle-toi quand on a parlé de Two of Us, la période où Linda est avec lui, qu'elle l'emmène comme ça, errer dans la campagne sans but précis.
On prend la bagnole, on ne sait pas où on va.
McCartney le dira même sur l'époque que c'était bien parce que ça lui permettait de se dégager de toute cette pression permanente d'être un Beatles. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont quand même réussi à gérer ça avec beaucoup d'intelligence.
Et de philosophie.
Et de philosophie, ouais. Mmh. Mais le fait est, c'est que ça devait être pas ça. Dans l'histoire qui nous concerne, en Inde, on n'est pas sur des fans quelconques. Hein. C'est plutôt... Alors, il y a évidemment des gens qui sont un peu des fans lambda, mais on a aussi des gens qui sont un peu du microcosme new-yorkais. Il y a par exemple la sœur de Mia Farrow, hein, qui se trouve là, et donc qui fera une dépression nerveuse importante et qui débouchera sur la chanson « Dear Prudence ». Hein, puisque ça s'appelle Prudence. De Dear Prudence de John Lennon, qui est une magnifique chanson. Je ne sais pas si on l'a faite, celle-là, je crois que oui. Avec son fameux arpège, là, que lui avait enseigné Donovan. Très belle chanson. Bon. Revenons-en.
Donc. Oui, mais tu parles de Mia Farrow, il paraît, le yogi, il aurait fait des avances à Mia Farrow. C'est
oui,
ça qui aurait foutu la merde un petit peu. C'est du voici, c'est du gala.
Voilà, c'est bon. Ça, ouais.
Enfin, poubelle.
Il semblerait que ça a été un peu. On n'est pas sûr de cela, en fait.
Ouais, voilà, d'accord.
Concernant la chanson, donc, j'avais une petite anecdote. John s'est inspiré d'une chanson de Smokey Robinson. Mm-hmm. I've been good to you. Alors, je te dis les paroles de Robinson, hein, avec mon anglais châtré. Look what you've done. You made a fool out of someone. Bah, je répète après. Mrs. Brown, in the kitchen.
Regarde ce que t'as fait, tu rends n'importe qui fou.
Et John, c'est que si c'est dit, what have you done? You made a fool of everyone.
Ah oui.
Tu vois, il a repiqué un peu des choses, mais c'est pas la première fois qu'il le fait. Rappelle-toi, comme Together. Donc c'est qu'il a dû payer un tribut à Chuck Berry. Voilà. Look what you've done. Love was true and found out that you were just
But there'll come a time.
Ça aussi, on pourrait faire une émission complète sur le pastiche.
Les Beatles, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont fait choper, parce qu'ils n'ont jamais caché l'inspiration qu'ils avaient d'autres chansons. Mais tout le monde fonctionne un peu comme ça. Et d'ailleurs, McCartney explique dans son l'ABCDR qui est sorti en 2023, il explique qu'une chanson, il dit « on voulait jouer dans l'esprit d'eux ». Alors c'était Bo Diddley, on voulait jouer dans l'esprit de Chuck Berry. Ouais. Je voulais faire un truc à la façon d'eux. Voilà. Et il dit par exemple que quand il y avait She's Woman, il voulait faire un rock à la manière justement de Chuck Berry. Et c'est là qu'il s'est aperçu que de faire un rock en trois accords, c'était pas gagné. Faire un bon rock qui émerge, c'est pas si simple que ça. Donc c'est arrivé de nombreuses fois. Alors ils se sont inspirés de... Moi ce qui m'a toujours épaté chez les Beatles, c'est l'autre... Que ça soit arrivé à McCartney ou que ça soit le type de Moody Blues qui y racontait, bah, tu racontes à un mec qu'il y a une nana qui est passée par la fenêtre de la salle de bain, et le type il te fait une chanson. Mais il voit passer, je sais pas, un âne, il te fait une chanson.
Ouais, Norwegian Wood, tiens, par exemple.
Ouais, ouais. Hein? C'est fou. Trouve des trucs dans des chansons, c'est incroyable. Pour ce qui serait de cette chanson, là, je vais te donner un petit
Sexy Sadie.
Un petit peu personnel quand même sur Sexy Sadie. Pour moi, c'est un grand morceau des Beatles. Il est original. Avec des chœurs colorés, parce que tu vas voir dans les chœurs, ils utilisent le flanging. Tu te rappelles la pédale flanger qui oscille comme ça. Oui. Donc ils utilisent ça, tu vois, il y a des innovations. Et les 117 prises nous rappellent que les Beatles ne se contentent pas du minimum, mais recherchent toujours la performance et l'excellence. Cette chanson, à mon avis, est très sous-estimée et elle est d'une originalité absolument touchante.
Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules.
Alors, tu ne me répondais pas tout à l'heure quand je te demandais quelle était la bonne prise. Je viens de trouver, c'est la 107, alors considérée comme la meilleure. Elle est choisie pour effectuer une, ce qu'on appelle une reduction mixdown, c'est-à-dire un report de plusieurs pistes sur une seule, pour en libérer de nouvelles, pour ensuite rajouter des morceaux.
Ouais.
Voilà, donc,
surtout qu'il ne travaillait pas avec beaucoup de pistes. Hein.
Oui, bah parce
on est sur des 8 pistes, donc il faut libérer de la
place. Plus, oui, oui.
En pile, ouais, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a un son, le son du piano avec cette espèce d'écho là qui fait mi piano basse string, mi je sais pas trop ce qu'on pourrait donner.
C'est Paul qui joue du piano là-dessus.
Oui oui, ouais, ouais, absolument, absolument. Oh, souvent le piano c'est Paul. Hein. Donc une très très belle chanson qui est vraiment à redécouvrir et qui est formidable à chanter, qui monte un peu quand même. Il y a une petite, faut avoir une voix qui arrive à monter quand même. Hein. Moi j'en ai écouté une version avec Carla Bruni.
Ah oui, ah non, ben on va pas la mettre celle-là.
Non non, on va pas la prendre, on va pas la prendre. Non, on va pas la prendre. Moi, je t'ai trouvé une version, alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour ce qui serait du double blanc. Je me retourne souvent vers Morgan James parce qu'elle a fait l'intégralité du double blanc. En plus, avec une réalisation graphique très très belle que tu peux voir sur YouTube, où il y a un dessinateur qui dessine, et ce qu'il dessine est reproduit sur un écran. Derrière elle, est juste assis en blanc, dans une robe blanche ou une tenue blanche, un costume blanc, je crois, sur une chaise, et elle chante. Ça donne une ambiance double blanc extrêmement touchante. C'est drôlement bien.
Là, c'est ce qu'on va écouter.
Et donc, j'ai choisi Morgan James. Et puis autre chose, c'est que bizarrement, alors que Morgan Jones souvent reprend l'orchestration originale, hein, c'est pas une bande son des Beatles, hein, c'est refait. Mais là, cette fois-ci, alors que le piano est omniprésent avec son côté un peu bastringue au départ, tout le temps que je me souvienne, c'est la guitare qui l'accompagne, une guitare à moitié en arpège.
Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. You laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules. One sunny day the world was waiting for a lover. She came along and turned on everyone. Sexy Sadie, greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know the world was waiting just for you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie, you'll get yours yet, however big you think you are, however big you think you are. Sexy Sadie, oh, you'll get yours yet. We gave her everything we own just to sit at a table. Just a smile could lighten everything. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest of them all. She made a fool of everyone. Sexy Sadie. However big you think you are, Sexy Sadie.
Ooh. Sexy Sadie, donc voilà cette reprise. Et puis juste avant la version originale des Beatles, et c'était le 43e numéro de Beatles Sanctuary. Merci à toi. Pour la prochaine fois, on a encore le temps d'y réfléchir. Hein. Ce sera le début, le milieu de carrière, la fin de carrière.
Je l'avoue, je n'ai pas encore cherché. Ouais. Par contre, il y a une petite idée que j'avais depuis un moment. Je vais peut-être faire une émission spéciale sur. Je l'avais déjà fait une fois ou deux, ou en reprise comme ça, mais la plus directe sur les reprises. Des Beatles, ouais. Tu sais, dans leur tout début, quand ils reprenaient des morceaux de Chuck Berry.
Ah oui,
de,
c'est ça. C'est... De, on peut revenir dessus, voilà, effectivement.
Ça pourrait être intéressant de voir leur façon. Je t'avais déjà mis le fameux Long Tall Sally, qui est exceptionnel, chanté par McCartney, qui a une voix incroyable. Donc, il y a plusieurs morceaux qui sont intéressants, Rock and Roll Music, par exemple. Hein, et donc, on peut peut-être faire un petit truc là-dessus.
Et peut-être qu'un jour, tu nous proposeras une reprise par un des covers bandes connues, par exemple les Rabbids. Enfin, je dis ça au hasard, il y en a plein, mais pourquoi pas.
Ah oui, alors.
Par contre, ils sont tellement sur le fil du rasoir, tellement dans l'esprit du morceau, que finalement, radiophoniquement.
Alors, sur les Rabbids, ça... peut-être pas. Les Rabbids, et puis il y en a un ou deux comme ça. Mais par contre, il y a un groupe qui est. Alors là, c'est. Hyper fantastique, c'est Analog, The Analog.
Ah oui, The Analog.
Alors, The Analog, là, c'est même le double blanc. Quand ils font le double blanc, il te manque pas un truc, même pas un bruitage, rien. Tout y est. C'est la perfection absolue, tu croirais que c'est les Beatles qui
alors,
sont là.
Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? La perfection absolue, je veux dire, t'es comme en 62.
Moi, j'admire. Personnellement, j'admire la prouesse technique. Si un type m'avait dit, tiens, on fait les Analog, venez me chercher pour me dire, tu joueras la guitare dans ce morceau-là, j'y vais même à la nage. Moi qui n'aime pas la natation, j'y vais à la nage. Ouais. Mais parce que vraiment, c'est formidable, c'est technique, c'est une prouesse extraordinaire. Mais ça s'arrête là.
C'est du cover band.
Ouais, je préfère écouter un groupe qui joue dans son spectacle un morceau des Beatles comme U2, Joe Cocker,
les Soulmen.
Et souvent j'aime bien quand il y a une petite version. On parlait tout à l'heure de Nirvana, Dave Grohl quand il reprend Hey Bulldog, c'est assez proche de la version Beatles, mais il y a un petit coup de patte là-dedans, un petit truc qui, voilà, c'est un peu nouveau. Puis il cherche pas vraiment à faire le.
Au Noir Désir qui fait Helter Skelter, voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles.
Il est géant celui-ci, effectivement. D'autant plus que Dave Grohl quand il joue Hey Bulldog, il le fait devant McCartney et Ringo Starr. Alors là, tu vois, je m'imagine moi prendre ma guitare et chanter un truc devant McCartney et Ringo Starr.
C'est encore possible.
Je fais une syncope.
C'est encore possible.
Non, je fais une syncope. Non, c'est pas possible.
À bientôt, Jackie.
Je serai percut. À bientôt, Marco.
Salut. Merci Jackie, c'était Beatles Song Story numéro 43 avec d'abord Smokey Robinson and the Miracles, I've Been Good to You, puis The Beatles pour Sexy Sadie et ensuite Morgan James pour cette reprise de Sexy Sadie. On se retrouve dans 15 jours et voici maintenant Bonnefils pour terminer cette première heure du 1226e Sweet Home Chicago sur le 666. Ça s'appelle I Know, Yes I Know et c'est sur l'album Just Give Me Some More Bonnefils. I'm all in love with you.
I know, yes, I know, extrait de Just Give Me Some More de Bonnefield. C'est ainsi que se termine cette première heure. On se retrouve dans la deuxième heure du 1226e Sweet Home Chicago dans quelques secondes avec l'interview de Fred Chapelier. À tout de suite. Baby, don't you want-